camarades. Nous sommes à moins d'un mois de la journée du 5 décembre. Cette journée de lutte contre la réforme des retraites, qui a été lancée par les syndicats, est devenue aujourd'hui un moment phare de la vie politique en France. Tant du point de vue des organisations syndicales qui y appellent, que du point de vue du gouvernement qui s'en inquiète et tente de faire un contre-feu. En effet, partie d'un appel des syndicats de la RATP à la suite de leur grève du 13 septembre, cette date est devenue, après des ralliements successifs, la date symbole de la contestation syndicale. Et l'appel au 5 décembre, aujourd'hui, est fait par FO, la CGT, les syndicats Sud Solidaire, l'UNSA, la FSU, et a même été officiellement rejoint par l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes, ce qui fait aujourd'hui, de ce 5 décembre, le premier appel depuis longtemps à une mobilisation interprofessionnelle. Les centrales syndicales nous avaient plutôt habitués ces dernières années à des appels catégoriels. Un jour, les pompiers, le lendemain, les cheminots, un troisième jour, les infirmières. Mais à présent, l'appel à faire grève le 5 décembre semble se généraliser. Peu à peu, cette date a pris corps. À l'exception pour l'instant de la CFDT, pratiquement tous les syndicats s'y sont joints. Eh bien, il serait de l'intérêt de tous les travailleurs, du public et du privé, de se saisir de cette opportunité. Car l'attaque contre les retraites concerne tous les travailleurs. Et surtout, la démolition des retraites n'est qu'un des aspects de la multitude de coûts que le grand patronat et l'État portent aux travailleurs. Les récentes mesures sur le chômage, c'est-à-dire contre les chômeurs, mais aussi les précaires qui sont des chômeurs partiels, annonce une catastrophe pour toutes les familles ouvrières. Alors oui, la coupe est pleine et il faut réagir si on ne veut pas crever. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance ce que cette journée va donner. Et surtout, il est difficile de savoir si cet appel sera largement suivi au-delà des militants. Mais c'est d'ores et déjà devenu une journée nationale et intersyndicale. Cela fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un appel de cette envergure et cela suffit à en faire une date charnière. De son côté, le gouvernement s'en inquiète et il procède à un certain nombre d'annonces contradictoires. Macron affirme sa ferme volonté de mener à bien sa réforme des retraites, tout en laissant entendre que des aménagements importants pourraient y être apportés. Et des pourparlers ont été organisés avec les responsables de certains syndicats SNCF, qui n'ont pas semblé convaincus pour l'instant, la CGT et Sud ayant quitté avant la fin la réunion organisée par la direction. Une autre réunion est prévue dans une dizaine de jours afin d'essayer de déminer, d'ici le 5 décembre, une grève SNCF qui pourrait se prolonger. La SNCF étant considérée comme une cocotte minute sociale en train de déborder. Difficile de savoir, dans l'inquiétude du gouvernement et du MEDEF, la part de crainte réelle et la part de pression, voire de bluff. Mais il est vrai que ce 5 décembre arrive dans un contexte social particulièrement tendu. Les grèves SNCF spontanées, dites sauvages, qui se sont déclenchées à la suite de l'accident de TER dans les Ardennes, puis celle de l'Ouest parisien au centre de maintenance des TGV de Châtillon, sont une expression la plus marquante de cette tension qui existe actuellement et qui agite un grand nombre d'autres catégories sociales. Urgences, pompiers, police, écoles, personnel navigant des transports aériens, kinésithérapeutes, avocats, la réforme des retraites semble mobiliser de nombreuses catégories sociales contre elle. Mais au-delà même de cette hostilité à la réforme des retraites, le mécontentement des salariés grandit, au-delà même des catégories les plus pauvres ou les plus fragiles. Ce mécontentement s'approfondit et entraîne même certains dans le désespoir. La société tout entière est entraînée dans une spirale comme une vis sans fin où tout est négatif pour l'homme. Déjà au niveau du chômage. Il paraît que le chômage a diminué ces derniers mois, mais la société est déjà largement marquée par la multitude des licenciements, la diminution et la disparition des emplois dans les grandes entreprises. L'annonce d'une fermeture d'entreprise depuis des années est quotidienne, et ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui ont disparu. Et tout dernièrement, le très florissant Michelin annonce la fermeture d'un site à La Roche-sur-Yon, où il y a 647 salariés, et menace d'autres sites, comme Cholet, Cataroux et plus près de nous à Vallon. Selon la direction de Michelin, ces sites menacés, qui représentent environ 2000 emplois, ne sont pas encore menacés de fermeture. Mais chacun sait aujourd'hui, dans le pays, que la procédure est entamée. Qui ne le sait pas ? Chez les salariés de General Electric à Belfort, ou chez les 3000 postes supprimés chez Carrefour, chez les 1900 emplois supprimés chez Conforama, ou chez ceux de HSBC, de BNP Paribas, de la Société Générale. Tous ces licenciements viennent après tous ceux qui n'ont pas fait la une de l'information nationale. Je parle des 70 postes supprimés chez Pacotte et Mignotte à Dijon, d'une centaine d'emplois menacés dans l'entreprise Parizeau en Haute-Saône, ou encore des 61 salariés de Francéole à Longwy. La multiplication de ces licenciements a entraîné la désertification de certaines banlieues, de certaines villes, où la population se retrouve dans une situation de laisser pour compte. Ces sites-là, on les compte par centaines, voire par milliers. Le chômage est devenu aujourd'hui le pire fléau social. Les entreprises n'embauchent plus vraiment depuis des années, sauf en précaire ou en intérim. Des milliers de gens n'ont cessé de connaître la misère et l'assistanat. Et cette situation est encore aggravée par la politique de l'État, qui mène aussi une guerre, en imposant l'austérité drastique à toutes les entreprises étatiques, en revendant et en privatisant à tour de bras les parties rentables de ces entreprises, et en imposant l'austérité à celles qu'ils conservent. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi, depuis près d'une dizaine d'années, voire plus, on ne parle que de la crise, de l'austérité qu'il faut imposer à la population pour la juguler ? Mais de quelle crise il s'agit ? Qui est en crise ? Est-ce qu'il y a une pénurie de nourriture ? Une pénurie de produits industriels ? Une pénurie dans les transports, dans l'aviation ? Où est la crise ? La société humaine n'a jamais été aussi riche et débordante de moyens, de technologies de pointe, d'innovations techniques, de découvertes scientifiques, de produits rares qu'elle exploite sur l'ensemble de la planète. Les riches n'ont jamais été aussi riches, les donneurs d'ordre n'ont jamais été aussi puissants. Et pourtant, toute la société est en crise. La concurrence fait rage, au point que les deux grandes puissances, USA et Chine, se font une guerre commerciale acharnée qui a des retombées partout. À commencer par l'Asie et les États-Unis eux-mêmes, dont les mesures protectionnistes ont fait chuter l'excédent commercial et ralentir le rythme même de leurs échanges, au risque de ralentir encore plus leur propre économie. Mais aussi jusqu'ici, en France, et même dans des entreprises de la région. Une société comme Vallourec à Montbard, par exemple, au lieu de commercer directement avec les USA, est aujourd'hui, pour certains de ses produits, obligée de passer par le Canada. La population, toutes les populations, celle des pays pauvres en premier lieu, bien entendu, qui payent de plein fouet cette crise, comme la population de pays riches comme le nôtre, est prise en otage par cette crise. Et c'est à la population que les grands de ce monde demandent de payer les frais de leur bagarre entre eux. Tout le monde est pris en otage par les politiques d'austérité. Difficile d'y échapper, que l'on travaille dans un EHPAD, on travaille dans les entreprises, dans un commerce, l'État s'emploie, y compris là maintenant avec la réforme des retraites, à rançonner systématiquement les plus pauvres. Mais au profit de qui et pourquoi? Et le pire dans cette évolution sociale, c'est que l'on découvre les merveilleuses avancées technologiques au moyen des guerres que se mènent sur toute la planète, en particulier au Moyen-Orient, et au travers de ces armes superpuissantes qui s'échangent sous le manteau. Car notre société est remplie de bruits de bottes. En fait, l'économie capitaliste est en crise. Et la bourgeoisie, cette classe sociale qui domine la planète, se bat, bec et ongles, pour continuer à s'enrichir, au détriment des autres classes sociales, avant tout du prolétariat. C'est cette crise-là que nous subissons tous. Dans le journal Le Monde, paru hier, la une était consacrée à ce sujet. Sous le titre « Aux racines des colères planétaires », le journal s'interrogeait sur ce qu'il peut y avoir de commun entre tous les mouvements qui ont l'air d'exploser depuis quelques mois, en Algérie, au Liban, à Hong Kong, au Nicaragua, au Soudan, au Chili, un peu partout dans le monde. Et comme responsable en premier lieu de ces révoltes populaires, Le Monde était obligé de reconnaître qu'il fallait mettre la situation économique et que dans pratiquement tous les pays, le rôle des possédants qui s'enrichissent et ponctionnent les classes populaires est déterminant. On peut vraiment se dire que du plus petit village à la plus grande capitale, du moindre recoin de la société, c'est une seule et même crise qui nous atteint tous, où que l'on soit. Derrière la diplomatie, voire derrière les guerres, il y a cette crise. Il y a cette compétition entre les grands. Il y a une guerre économique de plus en plus féroce. Mais il faut comprendre que cette bagarre que se mènent les grands au niveau économique a des conséquences la plupart du temps dans le domaine politique et que l'on passe en permanence de l'économique au politique et parfois à la guerre. Le monde capitaliste est engagé dans une course chaotique que personne n'est capable de maîtriser. Et c'est ce contexte qui, sans être tout à fait conscient pour la plupart des gens, exerce une pression et plonge les plus atteints, les plus écrasés, dans le désarroi. Oui, il y a un véritable mécontentement et une prise de conscience que ça ne peut pas durer éternellement. Et oui, il faudra certainement que la population pauvre et sa fraction la plus consciente, c'est-à-dire la classe ouvrière, se mettent en mouvement. Tout d'abord pour se défendre, mais au-delà, pour empêcher la grande bourgeoisie irresponsable de mettre la planète à feu et à sang. N'arrivent pas à organiser la société en fonction des besoins de l'humanité, en fonction des besoins des gens. Quelque chose les en empêche, comme s'il était impossible d'œuvrer en fonction des intérêts du plus grand nombre. Quelque chose comme si seuls leurs intérêts économiques privés les obligeaient à œuvrer contre le restant de l'humanité. Des trusts de la taille d'un État ne sont capables que d'œuvrer pour leurs intérêts privés. Et c'est là que se situe leur guerre, leur compétition aveugle, ignorante de tous les besoins de l'humanité, ignorante de la déforestation, ignorante du réchauffement de la planète, ignorante de la destruction de la faune et de la flore, voire même de la destruction des hommes. Rien ni personne ne peut les obliger à œuvrer pour le bien des hommes. Trump vient d'annoncer triomphalement qu'il allait se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Alors même si cette COP21 est remarquable surtout pour son inefficacité, ce geste reste un symbole du refus de la bourgeoisie américaine de participer à la lutte contre le réchauffement de la planète d'une quelconque façon que ce soit. Toutes ces entreprises gigantesques, grandes comme des États, se voilent la face en créant des fondations diverses, mais des fondations qui ne leur coûtent pas trop cher et qui améliorent leur image commerciale. Mais aucune d'entre elles, aussi riche soit-elle, n'acceptera d'aller au-delà de ses intérêts privés. Et ses intérêts privés, c'est d'être le plus puissant possible. Et aujourd'hui, pour faire de l'argent vite et bien, il vaut mieux spéculer avec l'argent que leur fournissent les banques centrales gratuitement, ou presque, que d'investir. Vous comprenez, investir, ça suppose d'immobiliser de l'argent pendant des mois, voire des années, avant que votre entreprise devienne rentable. Ça veut dire une forme de prise de risque. C'est beaucoup plus simple de prendre la masse d'argent que l'on possède pour l'investir dans la spéculation. Parce que si vous spéculez sur le bon cheval, sur tel produit agricole, tel produit minier, telle évolution possible du numérique, si vous spéculez là-dessus et que vous gagnez, en l'espace même de quelques secondes, vous pouvez vous faire une fortune. Au détriment des autres, d'accord, mais c'est toujours ça de gagner. Et cet argent gratuit dont bénéficie la grande bourgeoisie depuis la crise de 2008, c'est une espèce de prime à la spéculation. Pour un bourgeois, c'est plus rentable de spéculer que d'investir. Et c'est ce qui fait que même gavées d'argent, les entreprises n'investissent plus. Et ce refus d'investir est contagieux. D'autant plus que les perspectives du marché sont sombres. Qui va acheter? Qui va prendre des risques? Il vaut mieux s'endetter gratuitement, continuer à jouer au casino et attendre des jours meilleurs tout en s'enrichissant de façon éhontée. Et c'est pour cela que, de proche en proche, toute la société se retrouve prisonnière de la dette dont il faut payer éternellement les intérêts. Mais ce qui fait que les capitalistes préfèrent spéculer qu'investir, ce n'est pas seulement parce que la spéculation rapporte beaucoup et vite, mais c'est surtout l'intime conviction que le marché solvable est bouché et que vendre leurs produits est de plus en plus difficile. Les guerres commerciales sans nom entre Boeing et Airbus ou entre les pros du numérique américains, chinois ou coréens, etc., font apparaître cette difficulté. Ce n'est pas que les besoins des hommes soient saturés. Les besoins de l'homme sont immenses et ils sont loin d'être comblés. Mais le système capitaliste ne travaille que pour le marché solvable. Et là, ce marché solvable, non seulement il est saturé, mais avec l'appauvrissement de la population, il est même en train de se rétrécir. Ainsi, la grande bourgeoisie ponctionne la population, et en particulier ponctionne les pauvres, sans se rendre compte qu'elle est le serpent qui se mord la queue et qui finira par se dévorer lui-même. C'est là que l'expression « cercle vicieux » prend tout son sens. Alors, oui, ce système qui domine la planète tout entière, y compris notre pays, y compris notre vie au quotidien, est loin d'être un système vertueux, soucieux du bien-être des hommes, soucieux de la veuve et de l'orphelin. Loin de là. Et cette conscience-là est une partie intégrante du mécontentement de la population. Le premier mécontentement, bien sûr, c'est de voir son propre niveau de vie baisser. C'est de se voir réduit au statut de chômeur et d'assisté. Mais c'est également de voir évoluer la société dans des rapports de plus en plus impitoyables à l'homme. De voir l'apologie de l'égoïsme et de la force brutale. C'est le cas pour les rapports entre les hommes et les femmes, pour les rapports avec les migrants, entre les petits et les grands, pour les rapports entre les banlieues et les centres-villes. La haine pour les autres devient un credo, voire même une religion. Et elle croît directement proportionnelle avec l'enfoncement dans la misère et l'impuissance face à un tel déclassement. Cette évolution des mentalités, c'est certainement ce qui nourrit directement les courants dits populistes. Mais c'est également ce qui nourrit le mécontentement actuel. Oui, il y a une inquiétude, un mécontentement, sans doute assez profond dans la population, et en particulier dans la population ouvrière, celle qui jusqu'à présent reste la plus attaquée. La preuve en est le nombre important de réformes engagées pour remettre en cause le droit du travail. Mais cette population ouvrière sait, consciemment ou inconsciemment, qu'il lui faudra plus que de simples conflits locaux pour faire reculer le patronat. Pour défendre ses intérêts vitaux, il lui faudra une véritable guerre sociale. Il lui faudra peut-être même l'imposer à ses propres dirigeants politiques. Pour l'instant, le gros des travailleurs ne croit pas, ou plus, ou n'a jamais cru, en leur capacité de faire reculer la classe bourgeoise et son avant-poste, le gouvernement bourgeois. C'est ce sentiment-là, plus qu'autre chose, qui la freine dans ses combats. C'est ce sentiment-là qui l'a freiné l'an dernier, quand le mouvement des Gilets jaunes a pris de l'ampleur. Bien des travailleurs, de petites, moyennes ou grandes entreprises, se sont retrouvés aux côtés des Gilets jaunes. Mais tous le faisaient au nom d'autre chose que de leur qualité de salarié. Peut-être le faisaient-ils, conscients qu'occuper des ronds-points était plus facile et moins engageant que d'occuper leurs propres entreprises, là où le combat deviendrait plus ardu. Engager ses propres camarades, organiser la défense à l'intérieur d'une entreprise, faire face à la bourgeoisie directement, tout cela demande une volonté, une organisation et une détermination hors pair. C'est à la portée des travailleurs. Encore faudrait-il que leurs puissantes organisations en aient la volonté elles-mêmes. Mais justement, c'est ce combat-là que les organisations ouvrières ne sont pas déterminées à mener. La tactique de ces organisations syndicales et politiques de la classe ouvrière est certes adaptée au niveau de conscience et à la volonté de leurs troupes, mais elle est surtout adaptée à la volonté de la bourgeoisie de n'avoir aucun conflit social qui puisse la déranger dans ses affaires. Et c'est également ce manque d'envie de réagir de leurs organisations que les travailleurs ont également à affronter. Alors oui, le mécontentement est certainement très profond, mais le chemin pour relever la tête est loin d'être aisé. Et c'est pourquoi le 5 décembre, qui sera un des premiers mouvements qui appelle l'ensemble de la classe ouvrière, devra, dans la mesure du possible et de toutes nos forces, être un succès pour mettre fin à ce cycle infernal du repliement sur soi et de la défensive, pour mettre enfin à l'ordre du jour une vision offensive de la défense de leurs intérêts. Les travailleurs en ont besoin. Mais même si le 5 décembre ne fait pas le plein, même s'il n'est pas un véritable succès, il pose quand même d'ores et déjà le combat là où il doit se situer, c'est-à-dire concernant l'ensemble de la classe ouvrière. Pour notre part, nous devons tout faire pour que ce mouvement soit un succès, ou du moins soit assez important pour qu'il marque dans la tête des travailleurs et même de ceux qui n'y participeront pas une démarcation avec la période qui vient de s'écouler. Il faut qu'à partir du 5 décembre s'ouvre dans la conscience des gens un sentiment de renouveau, d'éveil. J'ai parlé tout à l'heure de cet article du Monde qui faisait allusion à la multiplicité des contestations populaires qui éclataient un peu partout. Il est évident que cette contestation et cette protestation risquent également de nous concerner à un moment ou à un autre. Le ferment est là, le mécontentement est bien réel et risque de se muer à un moment peut-être inattendu en révolte. La bourgeoisie mondiale, avec son arrogance et son égoïsme étroit, est en train de mettre le feu aux poudres un peu partout. Et nous pouvons quasiment être sûrs qu'elle le mettra aussi ici, en France, et qu'elle est peut-être déjà en train de le faire. Alors d'accord, Macron essaye de désamorcer un peu le mécontentement en proposant de faire démarrer la retraite par points aux seuls nouveaux embauchés. C'est ce qu'ils appellent, non sans humour familial, la clause du grand-père. Évidemment, si cette clause rentrait en vigueur, cela voudrait dire que c'est bon pour nous. Et tant pis si on noie nos petits-enfants. Cette espèce de marchandage cynique est soi-disant destinée à désamorcer le mouvement de contestation. Mais c'est grossier, parce que la colère dépasse et de loin le problème des retraites. Et à un moment, elle risquera d'exploser, comme elle explose déjà dans d'autres pays, et justement de façon incontrôlable à ce moment-là. Et c'est cela que nous devrons préparer. Le sentiment d'impuissance et la conviction qu'on ne peut rien faire pour changer son sort est un sentiment que beaucoup de travailleurs ont vécu et vivent aujourd'hui. Et il s'appuie sur une illusion que l'autre, les puissants, sont en fait infiniment plus puissants encore que ce qu'ils sont. Et c'est plus un sentiment qu'une réalité. L'abattement qui s'ensuit donne une prime aux gagnants. Cette psychologie de l'humeur des masses est extrêmement fluctuante et un rien peut la modifier. La comptine qui raconte que le roi avait pour habitude de se promener nu sur son cheval et que personne ne s'en était rendu compte tellement tout le monde était prosterné devant lui est bien connue. Jusqu'au jour où un gamin qui avait oublié de se prosterner l'a vu passer et s'est écrié « Le roi est nu, le roi est nu ». Alors bien entendu, je n'oserais pas faire de cette comptine une analyse politique. Mais la puissance des grands trusts, des grandes compagnies mondiales financières qui dominent la société, n'est forte à la finale que de la confiance qui leur est faite. Et il se pourrait bien qu'un jour ou l'autre, ces énormes machineries qui s'étendent comme une toile d'araignée sur toute l'activité économique de la planète ne résistent pas à la colère de la population. Mais pour ce faire, il faut que les masses en mouvement soient conscientes de leur but et s'organisent en fonction de leurs objectifs. Cette lutte ne peut se mener que si son avant-garde en est consciente. Et elle ne peut se mener que si elle s'organise pour la mener. C'est en ce sens-là que le rôle de la classe ouvrière est déterminant. Car pour en revenir à ce que disait Marx, la classe ouvrière est la seule classe au monde qui n'a que ses chaînes à perdre. Oui, même si on a l'impression que nous sommes attachés à notre petit niveau de vie, à notre appartement, à notre confort, en tant qu'ouvrier, nous sommes la seule classe qui n'a que ses chaînes à perdre. Et dans ces temps de crise, cela devient de plus en plus vrai. Et nous sommes également la seule classe qui vivons et travaillons au sein même de l'activité économique. Travailleurs des entreprises, travailleurs des services, travailleurs des banques, travailleurs de l'informatique, travailleurs des transports, travailleurs partout. La classe ouvrière est partout au sein de ce monde moderne. C'est elle qui le fait vivre, c'est elle qui le fait fonctionner, et c'est elle qui peut, si elle le veut, retenir en otage ces grandes compagnies capitalistes et ces maîtres du monde. Aujourd'hui, la conscience de la classe ouvrière est bien loin de ces idées-là. On parle souvent dans notre jargon de militants du recul de la conscience de la classe ouvrière, faisant allusion au passé où la classe ouvrière, armée de ses organisations politiques et syndicales, avait osé se dresser devant la bourgeoisie pour réclamer son dû. La classe ouvrière française a su réagir collectivement, au moins jusqu'à une certaine limite, en 1936, et dans une moindre mesure en 68. Mais depuis, les nouvelles générations ont perdu peu à peu la conscience de leur force collective dans cette société. Cela est vrai. Et c'est vrai que sans cette conscience politique, la classe ouvrière risque d'aborder la période à venir et les turbulences qui vont s'en suivre, désarmées et égarées. C'est pour cela que ce qui compte aujourd'hui, avant même que le réveil des travailleurs ait commencé, c'est de se préparer pour transmettre, pour réarmer la classe ouvrière, pour lui faire prendre conscience de son rôle social quand elle intervient collectivement, pour lui faire prendre conscience de sa force sociale quand elle intervient collectivement et des moyens extraordinaires qu'elle a quand elle intervient collectivement. C'est un apprentissage qui doit se faire avant les combats et qu'elle découvrira dans ces combats. Qui sont ses amis ? Qui sont ses ennemis ? Qui veut la ramener dans le giron du capitalisme ? Ou qui l'aide à gagner son indépendance et sa maturité politique ? Dès que les travailleurs s'engageront dans une voie offensive, même si c'est pour se défendre, tous les problèmes vont se poser en même temps. Les rapports avec les forces de l'ordre, les rapports avec les catégories hostiles au sein même de son mouvement, les rapports avec les autres catégories sociales, avec les paysans, avec la petite bourgeoisie des villes, avec les jeunes, avec les vieux, tous ces rapports vont se poser d'un seul coup, tout de suite. Comme ils doivent se poser aujourd'hui en Algérie, dans les quartiers, dans les entreprises et même dans les mosquées. Ces problèmes-là, les travailleurs les plus conscients doivent déjà les avoir parcourus dans leur tête pour pouvoir y répondre à bon escient le moment venu. Et peut-être que le problème aujourd'hui le plus important, au-delà de tout, c'est la conscience d'être la seule classe qui n'a à perdre que ses chaînes et qui, de ce fait, est capable de s'opposer jusqu'au bout à la grande bourgeoisie. Ce qui signifie être conscient de la nécessité de renverser le pouvoir de la bourgeoisie et de son État. Ce qui signifie encore la nécessité que la classe ouvrière s'empare elle-même, collectivement, du pouvoir pour gérer la société dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité, en mettant fin à l'exploitation et à la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que des travailleurs aujourd'hui commencent à s'emparer des idées communistes, qu'ils commencent à réfléchir sur où va cette société et où il faudra la mener. C'est pour cela que dans la période à venir, nous avons décidé de nous présenter aux élections municipales, sachant parfaitement que dans ces élections où il y a 36 000 communes qui vont réélire leur maire, dont 947 villes de plus de 10 000 habitants et 2 000 villes de plus de 5 000 habitants, nous sommes une organisation beaucoup trop petite pour avoir une quelconque visibilité nationale. Mais nous sommes assez grands pour pouvoir engager partout où nous sommes, avec nos sympathisants et nos militants, un travail de prise de conscience. Nous avons à apprendre à la classe ouvrière à avoir confiance en elle. Nous avons à transmettre notre propre confiance dans la classe ouvrière. C'est notre tâche aujourd'hui la plus essentielle, celle qui permettra de préparer l'avenir dans les luttes et dans les combats à venir. La moindre goutte des idées communistes que nous répandrons aujourd'hui risque de s'enfler toute seule et de se répandre le moment venu lorsque les travailleurs en auront besoin. La moindre goutte déposée aujourd'hui se transformera en un flot quand les gens viendront la chercher pour savoir où aller et que faire dans le labyrinthe d'un mouvement social. Nous devons discuter et discuter. Et discuter encore, et convaincre autour de nous, nos voisins, nos amis, nos collègues, que le communisme sera à un moment donné la seule solution possible pour cette société en crise, et que la classe ouvrière sera la seule classe capable et responsable de prendre le sort de l'humanité en charge. La seule classe capable d'entraîner les autres couches populaires victimes, elles aussi, du grand capital. Alors, oui, dans ces élections, nous n'aurons pas une visibilité extraordinaire. Mais par contre, là où nous sommes, nous aurons un rôle important. Celui de rappeler que notre camp, celui des travailleurs, celui des exploités, constitue la seule force, non seulement pour contrecarrer la pieuvre capitaliste, mais aussi pour mettre définitivement fin à sa dictature criminelle sur la société, et celui d'affirmer « le communisme, c'est l'avenir de l'humanité ».